Salut les joueuses et salut les joueurs. Alors pour ce nouvel épisode de la chronique Thermoformage, je suis toujours je suis toujours accompagné de Flavien. Salut Flavien.
Salut Maxime, salut Père Castor et salut les auditeurs de Proxy Jeux.
Alors, quelle est la lettre qui a été tirée par ton système pseudo-aléatoire pour ce mois-ci ?
C'est pas pseudo-aléatoire, alors je vais expliquer le système. Je vais sur un site, je dois taper sur Google, je pense, tirage aléatoire de lettres. Et en fait, je fais une petite sélection et du coup, ça m'a tiré le D. Avec le D, j'avais plusieurs choses, je sais pas
quel... Donc t'as retiré un D, c'est ça ?
C'est ça, ouais. J'ai tiré le D. Mais quel terme ludique te viennent avec le D, par exemple ? À part le D, justement.
Deck building.
Deck building, deck. Mais deuxième lettre, du coup, j'ai dû tirer une deuxième lettre et c'était le I. Et du coup, on va parler de distributeur. Alors, les distributeurs, qu'est-ce que ça t'évoque, Maxime ?
Ça me rappelle une boîte de Uno que j'avais à la maison où tu avais un distributeur de cartes en plastique.
Ouais, alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a le distributeur de boissons qui... Les boissons, on en a souvent autour d'une table de jeu.
Voilà.
Enfin, sauf pour les monomaniaques un peu psychorigides qu'on pardonnera peut-être.
Bon, donc, si les cartes sont protégées, c'est bon, hein, tu peux boire et manger autour
d'une
table.
C'est ça, protéger des deux côtés, comme on l'avait dit dans l'épisode
de cet été.
Donc voilà, non, les distributeurs de boissons, on va les laisser de côté. Et il y a les distributeurs de cartes, mais en général, effectivement, bon, alors ça peut être électronique, mécanique, comme dans le Uno dont tu parles, mais ça peut être aussi un humain qui distribue
les cartes.
Voilà,
manuel, donc parfois. Le rôle ingrat.
Mais celui-là, on l'appelle plutôt le donneur. D'ailleurs, rien à voir avec le kebab, mais, ouais. Mais on l'appelle plutôt le donneur. Donc on va pas parler de ce distributeur-là. Et du coup, alors c'est un rôle qui est assez peu connu parfois par les joueurs, moins que celui d'éditeur ou de joueur ou d'auteur ou d'illustrateur. Mais c'est un rôle qui existe dans la chaîne ludique. Alors, je vais peut-être te laisser présenter rapidement un petit rappel de la chaîne ludique. En fait, comment est-ce que le jeu va de l'auteur jusqu'à chez nous ?
Bah déjà, il y a l'auteur qui va avoir l'idée initiale d'une mécanique qui va implémenter...
ou d'un thème, une idée de jeu en tout cas. Ouais.
Voilà, bon, souvent c'est plutôt des mécaniciens, on va dire, les auteurs qui vont rédiger une règle, utiliser du matériel pour... une alchimie ludique qui va mettre en œuvre. Et derrière, il y a l'éditeur qui lui...
C'est ça. Lui, quand il pense que c'est, allez, pourquoi pas plus ou moins finalisé...
Que ça devient intéressant et qu'il y a peut-être des fois encore un petit peu de travail à faire de développement sur un jeu. Et bien sûr, il y a l'illustrateur. Hein.
Ouais, mais qui vient souvent après la trouvaille de l'éditeur. Ça peut arriver de temps en temps que l'illustrateur du proto, c'était le cas pour Pierrot, par exemple, sur Mr. Jack à l'époque, il y a plus de 10 ans, qui avait travaillé en fait sur le proto de Bruno Catala, qui s'appelait Une ombre sur Whitechapel, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui du coup avait après illustré Mr. Jack. Mais c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Mais donc effectivement, auteur, paf, je vais présenter à mes éditeurs sur Salon, par mail, par Skype, par autre.
Voilà, donc première difficulté pour l'auteur, c'est de trouver un éditeur qui va prendre son jeu, qui va l'éditer. Et l'autre difficulté, on va dire, pour l'éditeur, c'est derrière de trouver un distributeur qui va être...
Parce que les derniers maillons, du coup, ouais.
Qui va prendre son jeu. Donc, on verra les différentes formes d'achat qu'il existe. Et pour pouvoir le mettre à disposition des boutiques spécialisées, des sites internet qui vont acheter le jeu au travers du distributeur.
Voilà, donc si on veut rappeler rapidement, il y a auteur, éditeur, illustrateur, point dans le développement, distributeur, boutique, puis le joueur, le dernier maillon finalement quelque part, et tout ça est bien sûr en interaction permanente, etc. Et du coup, effectivement, le distributeur, c'est pas forcément le rôle le plus connu et le plus mis en valeur.
Effectivement, bon, sur les boîtes de jeu, on retrouve quand même le nom du distributeur, pas forcément le logo,
et
mais
pas mis en valeur autant que l'éditeur ou que l'auteur ou que l'illustrateur maintenant. Mais c'est vrai que c'est un rôle un peu ingrat qui est surtout économique en fait, qui est moins dans, parce que autant l'auteur il crée vraiment, l'éditeur il a aussi une part de développement, de
création,
modification,
d'implémentation, ouais.
Alors ça dépend des éditeurs encore une fois, mais comme à chaque fois qu'on parle des éditeurs, ça dépend des modalités de travail de chacun. Mais il y a quand même un peu de création, l'illustrateur aussi il est dans la création. La boutique, on est directement en contact avec. Le distributeur, c'est celui qui est un peu caché derrière tout ça.
Et qui, sans celui qui pourtant, s'occupe du SAV.
C'est ça, et sans qui pourtant le jeu ne peut pas arriver en boutique en fait. Donc son rôle au distributeur, je ne sais pas toi, quelle place tu lui vois, en fait, quel rôle tu lui vois, à part effectivement le réseau ?
Déjà, il y a une grosse part de logistique, hein, puisque c'est souvent lui qui va stocker les boîtes de jeux d'un éditeur et qui va les mettre au catalogue, à son catalogue, et qui va envoyer tout son réseau de commerciaux dans les boutiques spécialisées pour présenter son catalogue, présenter ses nouveautés et essayer de vendre en fait les jeux qu'il a au catalogue, puisque c'est... Il va bien évidemment toucher une commission sur les différents jeux qu'il va vendre. C'est son but.
Ouais, il y a toute la partie logistique qui est pas forcément facile à mettre en œuvre pour un éditeur, de connaître tout ce qui est les coûts de transport, etc. Qui est
le stockage aussi, qui a son coût.
Le stockage, ouais.
Et les boutiques spécialisées, elles ont pas non plus des zones de stockage illimitées, hein. Bon, sauf Philibert, hein. Eux, ils ont un
dépôt énorme, mais. Et ouais, donc effectivement, il y a tout le côté logistique. T'as parlé du stock. Alors le stock, effectivement, il y a des distributeurs qui louent ou qui achètent des entrepôts. En général, c'est de la location, il me semble, hein, pour effectivement stocker ça. Faut bien comprendre qu'un distributeur, il distribue rarement qu'un seul éditeur. Hein. Il y a un marché de la distribution. On parlera rapidement des noms des différents distributeurs plus tard, mais un distributeur peut très bien distribuer plusieurs éditeurs différents et donc stocker plusieurs éditeurs dans son entrepôt et donc effectivement les redispatcher entre les différentes boutiques. Pour moi, un des rôles importants du distributeur, c'est le réseau qu'il va apporter à l'éditeur. Puis il possède pas forcément ce réseau-là, l'éditeur. Alors il le possède de manière personnelle, mais toutes les boutiques en France, il les connaît pas. Il a pas le temps, en fait, lui, avec ses petites pattes, d'aller faire sa petite voiture.
Surtout si l'éditeur, c'est une entreprise individuelle ou.
Surtout
s'il
commence,
ouais,
c'est un petit éditeur,
voilà,
ouais. Tout à fait. Il y en a qui ont essayé, hein, de se dire, allez, je vais le distribuer moi-même parce que c'est un coût en plus. On en parlera après, mais c'est. C'est vrai que c'est pas facile de faire le tour de la France et de présenter soi-même son jeu aux différentes boutiques pour dire allez tu m'en prends combien etc. Alors que les boutiques ont déjà des contrats avec les distributeurs, des façons de faire, des routines qui facilitent les transactions quoi.
C'était le cas par exemple de l'éditeur Z or Alive qui avait fait le jeu Z First Impact.
D'accord.
Et
ouais.
Il me semble qu'ils étaient en auto-distribution donc c'était eux qui géraient leur stock et la vente directe aux boutiques.
Ce qui explique peut-être que le jeu soit retrouvé à 10-15 euros parce que comme les boutiques normalement n'ont pas.
Non, peut-être pas à ce tarif-là. Hein.
Ouais, peut-être 20 euros, mais parce
il
que
était,
comme les boutiques n'ont pas.
Je crois que sur Big Bazar, il était à 50%.
Mais parce que comme les boutiques n'ont pas le droit de vendre à perte, s'il se passe du rôle du distributeur, forcément la boutique peut peut-être payer moins cher.
Bon, après, il y a le problème des frais de port. Hein. Parce que souvent, les distributeurs, au catalogue, ils ont un grand nombre de jeux. Et à partir d'une certaine quantité, elles m'ont proposé du franco de port à leur boutique.
Tout à fait, ouais. Ouais, il y a cette problématique-là. Quand on discute avec les gens qui tiennent les boutiques, effectivement, on voit ça. Je t'en prends tant et comme ça, du coup, et t'as des remises aussi parce que pour achat de gros, c'est peut-être aussi pour ça que certaines boutiques, dont Philibert par exemple, proposent des prix vraiment concurrentiels parce que comme ils achètent vraiment énormément en quantité, ils peuvent aussi avoir peut-être des prix. Il y a aussi le réseau, le rôle d'animation éventuellement sur festival. Alors là, ça dépend des distributeurs.
Tout dépend des contrats qu'ils vont avoir avec leurs éditeurs parce que c'est vrai que sur certains festivals c'est le distributeur qui va assurer la mise à disposition de stands, d'animation et qui va faire également la représentation commerciale et marketing pour le jeu.
Sachant que alors au niveau des interviews, si vous voulez approfondir, moi avec Playtime j'en avais fait deux, une de Gigamic avec Mathilde et une avec Cesare d'Atalia. Et en fait, lui, il disait que même si l'éditeur est présent sur le salon, lui, le jeu sera aussi présent sur son stand de distributeur. Parce que lui, en tout cas, c'est comme ça qu'il voit son métier de distributeur. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Ça dépend effectivement des contrats parce que c'est quand même un prix à chaque fois et des moyens humains et financiers d'aller sur les salons pour représenter les jeux. Et d'un point de vue économique, alors on va vraiment simplifier. Hein. On n'a pas cherché des chiffres, on n'a pas fait de sondage auprès des distributeurs sur combien est-ce qu'ils prennent, etc., sur le prix final d'un jeu. Mais si on veut vraiment schématiser, disons que si on part sur 10% pour l'auteur, ce qui est déjà pas mal, c'est pas toujours le cas, on va partir sur 30 boutiques, 30 éditeurs, 30 distributeurs. Attention, hein, ces chiffres sont vraiment vus à la louche.
Voilà,
si les distributeurs passent là et qu'ils veulent passent par là et veulent nous rectifier un peu, préciser les choses, qu'ils n'hésitent pas, ou si vous avez des chiffres plus précis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vraiment histoire de donner
une
vision globale.
Ça permet de se faire une idée sur un jeu, par
exemple. Sur un jeu à 40 euros, voilà, l'auteur va toucher, disons, 4 euros. Encore une fois, 10%, c'est pas mal. Hein. C'est pas toujours...
C'est plus aux alentours de 6-7.
Ouais, 8%.
Bon, on n'a pas de chiffre réel.
Ouais, et puis ça dépend des contrats.
C'est vraiment de
l'estimation. Mais bon, voilà, 4 euros. Et puis après, sur les 36 euros qui restent, chacun va toucher 12 euros pour schématiser.
Et n'oublions pas la TVA.
Et n'oublions pas la TVA et les impôts. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu du rôle de l'éditeur, le réseau, l'animation, le
stock. Du distributeur.
Ce pauvre petit oublié. Effectivement, il y a tout ce qui est présentation des produits aussi. Il y a les Very Yellow Party, les VIP, et il y a les Asmodays. Non, c'est pas les Asmodays. Mais c'est vrai qu'il y a la présentation aux partenaires, du coup, pour les boutiques. C'est tout un travail, en fait, où là, ils embauchent des gens, etc., pour présenter les produits qu'ils vont avoir à vendre. Chose que l'éditeur, qui a du développement à faire, n'a pas forcément le temps de faire. Alors, on va peut-être passer sur le stock et les différentes modalités de contrats proposés par le distributeur.
Alors, quand on entend des interviews de différents éditeurs lorsque vient la décision du choix du distributeur, c'est vrai que le choix est un peu cornélien. Est-ce qu'ils vont prendre un distributeur qui est imposant, qui a un réseau de commerciaux et un maillage qui est très répandu soit sur la France, sur l'Europe, sur l'Amérique, parce que c'est vrai que
dans
les éditeurs,
le réseau international devient très important, quoi.
Tout à fait, ouais. Donc en gros, il y a principalement deux modes de fonctionnement pour les distributeurs. Soit ils vont faire de l'achat ferme auprès d'un éditeur, donc ils vont leur acheter 1000, 2000 ou 500 boîtes, enfin après ça dépend des contrats. Et du coup, c'est de l'achat ferme, donc là l'éditeur est gagnant puisque
le distributeur paye que les boîtes soient vendues ou non.
C'est ça, ouais. Et après c'est le problème entre guillemets du distributeur si les boîtes ne sont pas
difficile pour un distributeur qui débute. Je crois que c'est avec Cesare qu'on discutait de ça et que lui effectivement faisait pas ça parce que pour un distributeur qui se lance, en fait, c'est une avance sur trésorerie trop importante. Parce qu'il faut attendre effectivement qu'il y ait cette avance sur recette quelque part si on compare au cinéma. Et donc, achat ferme, ça c'est ça. Et l'autre modalité.
Et l'autre, c'est le mode du dépôt-vente, où en gros, le distributeur va prendre les boîtes, il va en assurer le stockage, la logistique, la représentation commerciale, marketing, mais l'éditeur ne sera payé qu'au moment où.
Où le distributeur sera payé. C'est-à-dire le distributeur est payé, puis après il reverse à l'éditeur en fait. Ok, donc ça c'est vraiment les...
Donc un système de paiement, on va dire, différé là, dans ce cas-là.
Effectivement, un éditeur pour lui, il a plutôt intérêt à trouver quelqu'un qui fait du dépôt-vente, mais un distributeur a plutôt tendance... Non, l'inverse. Tu vois, moi je m'embrouille pas mal entre ces deux termes, j'ai souvent tendance à les confondre. Donc c'est bien qu'on ait reprécisé ces deux choses.
On peut imaginer que la marge, elle sera réduite sur un système d'achat ferme que sur un système de dépôt-vente.
Ouais, parce que du coup, ils prennent moins de risques sur un moment X, donc ils disent après.
Bon, ça, c'est une
supposition.
Une supposition, ouais.
Ok, il y a ça, il y a aussi deux différences. Il y a les éditeurs qui. Alors, le distributeur, ça peut être de l'étranger vers l'étranger, de l'étranger vers la France, de la France vers l'étranger ou de la France vers la France. Et il y a deux différences principales. Il va y avoir les éditeurs qui vont être également distributeurs, comme par exemple Yellow ou Asmodée. Ou les distributeurs qui ne sont que distributeurs, et il n'y en a pas tant que ça, mine de rien.
Tu parlais d'Atalia avant, par exemple.
Oui, il y a Atalia. Alors, ils se revendiquent effectivement comme le seul distributeur non éditeur en France. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié depuis l'interview s'il y en a des nouveaux, ou même avant, si c'était effectivement le cas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, lui, il se revendique comme tel. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, entre guillemets, cette différence entre un distributeur seul et un distributeur qui sera aussi éditeur?
Déjà, là... On pourrait se demander, est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de concurrence, entre guillemets, entre les jeux qu'il va éditer et forcément distribuer, comparé aux jeux qu'il va uniquement distribuer? Parce que forcément, il a mis plus d'argent, il a un risque qui est plus important,
risque,
sur le jeu qu'il édite lui-même et qu'il distribue. Après, on peut imaginer aussi qu'en fonction du mode d'achat du jeu, l'effort investi va peut-être être différent parce qu'un jeu qui a été acheté sous la forme d'un achat ferme, on l'a sur les bras, comparé à un jeu.
Et ça prend de la place et c'est de l'invendu. Ouais. Ouais. Effectivement, je crois que Cesare, c'était son argument principal, c'est l'indépendance. C'est moi, tous les jeux qui arrivent chez moi sont au même niveau au départ. Après, il disait, je les pousse différemment selon s'ils marchent ou pas, ce qui est entre guillemets normal, c'est un produit qui ne fonctionne pas, on ne va pas le pousser plus que ça, mais au départ, ils ont tous la même chance. Alors que potentiellement, il disait pas que c'était le cas, mais potentiellement, chez un distributeur qui est aussi éditeur, peut-être qu'il y aura du favoritisme, si on veut. Donc, c'est toute la question de l'indépendance. Il y a aussi la question des studios qu'on va rapidement aborder.
Si on reparle juste d'Atalia, c'est... les jeux sont vraiment mis en avant par le distributeur. Il assure une grosse partie
de
communication. Alors c'est quelque chose qu'on voit moins sur les autres jeux, ou c'est plutôt l'éditeur
qui... Ça dépend. Des fois, on voit Asmodée, on sera présent là via Asmodée, par exemple. Libidude, je sais plus sur quel salon récemment, qui disait on sera pas présent sur place, mais nos jeux y seront parce qu'il y aura un stand Asmodée. Alors je pense que ça dépend effectivement du contrat de l'éditeur avec le distributeur.
Mais rien que si on parle de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Atalia est très présent.
Atalia communique pour tous les éditeurs qui représentent. Ouais.
Vers la fin de la chronique, on va citer quelques distributeurs et peut-être qu'il y en a certains, vous n'en avez jamais entendu parler. Ils sont plus là dans un rôle de logistique plutôt que dans un rôle marketing.
Ouais, ou bien justement, ils sont éditeurs et vous en aurez plus entendu parler en tant qu'éditeur qu'en tant que distributeur, pour le coup. Il y a ça, rapidement, la question des studios. Je ne sais pas ce que ça évoque chez toi, le studio. Alors, je sais qu'Asmodée en a, que Yellow, par exemple, Purple Brain, est considéré comme un studio de Yellow. Je crois que Morning Players a aussi cette dynamique-là, plus ou moins, en tout cas, dans les tuyaux, si ce n'est pas lancé.
On peut faire le parallèle avec le jeu vidéo, au final. C'est un peu le même type de fonctionnement où tu as anciennement un gros éditeur qui va venir, entre guillemets, grignoter des petits éditeurs pour l'avoir sous leur coupe et les aider dans le développement et dans la mise en valeur de leur future production.
Voilà, et effectivement, il y a toujours eu, entre guillemets, cette peur que l'éditeur qui grignote enlève toute liberté créatrice au développeur, à l'éditeur d'origine. C'est pas toujours le cas, on le sait, hein, Pearl Games, par exemple, qui est chez Asmodée, fait toujours des jeux qu'il a envie de faire pour l'instant.
Ça, c'est ce qu'il disait dans l'interview chez toi.
Ouais, bon, et puis nous, au niveau artistique, etc., on peut constater que ça se vérifie, quoi. Pareil pour Istari, qui continue, je pense, à faire les jeux qu'il a envie, même si certains passent chez les Space Cowboys. En tout cas, ça pose cette question. Et si on se reconcentre vraiment sur le distributeur, là, c'est plutôt, on part plutôt sur la relation entre l'éditeur et son studio. Si on se concentre sur le distributeur, ça peut donner place à des contrats particuliers, pour le coup, de distribution, peut-être entre Purple Brain et Yellow. Ça peut donner lieu à une relation particulière qui fait que c'est pas juste le distributeur de Purple Brain, mais qu'il y a vraiment une relation particulière qui s'instaure, quoi.
Bon, après, c'est vrai qu'on connaît pas le détail de leur fonctionnement, mais on peut imaginer qu'il y a aussi une espèce d'exclusivité de Purple Brain. Il pourrait pas dire, maintenant je veux aller me faire distribuer ailleurs parce que mon distributeur actuel ne met pas suffisamment en valeur mes créations au niveau des boutiques.
Bon. Oh, bien, ce serait une rupture de contrat, sûrement. Enfin. Ouais. Voilà pour ça, pour cette différence entre effectivement distributeur et éditeur-distributeur. Maintenant, on va parler de très rapidement de quelque chose qui est la distribution en fait des jeux étrangers, pour faire une rapide différence entre moi, ce que j'appelle moi la localisation, je sais pas si c'est le terme exact, et ce qui est juste de la traduction de la francisation. Je sais pas si tu veux commencer.
Alors, si on a de la chance, on va acheter directement ces jeux à Essen, si on n'est pas rebooté par l'anglais ou par l'allemand.
Ou si on parle anglais, allemand et toutes les langues.
Ou japonais, si on achète les jeux de Japan Marine. Et sinon, les grands salons comme Essen, et encore plus le salon de Nuremberg.
Ouais, qui se passe en début d'année pour le coup. Voilà, et auquel les joueurs connaissent moins parce que finalement c'est un salon professionnel.
Voilà, ils y sont pas conviés, on va dire. Et c'est là aussi que se négocient les contrats pour mettre à disposition un jeu auprès d'un distributeur à l'étranger ou réaliser des imports, exports, etc. On a essayé de lister les différents modes de localisation qu'il existe pour les jeux, où là, simplement, un distributeur va acheter des jeux auprès d'un distributeur étranger et les vendre sur le marché national, mais sans toucher à la boîte, ça sera la
boîte
originale.
Parfois, ce sera même de la distribution du produit dans sa langue d'origine.
Voilà, sans, ça, c'est possible. C'est la boîte à l'identique que si on l'achetait dans le pays d'origine.
Voilà, c'est ça. Avec une différence de prix, puisque le distributeur est passé par là. Et qui prend sa marge.
Et c'est d'autant plus cher si ça vient d'un pays en dehors de l'Union européenne, puisqu'il y a aussi des droits d'importation.
Ouais. Donc ça, effectivement, c'est vraiment le cas, entre guillemets, le plus simple pour le distributeur, le contrat le plus simple. Il n'y a rien à toucher. Paf, je prends vos jeux. Et si je ne les traduis pas, je ne fais rien. Je vous fais juste profiter de mon réseau.
Alors, des fois, la boutique, elle peut nous donner une règle imprimée qui a été. Je sais que Philibert, ils font ça.
Tout à fait, oui. Il y en a certains qui le font, sur certains jeux. Après, il y a la traduction. Donc, une étape supplémentaire.
Alors, on va juste différencier les jeux à matériel neutre en termes de langue et les jeux où il y a du texte à traduire.
Oui, bien sûr. Ouais.
Parce que tu as les...
Oui, c'est vrai, oui.
Donc, tu as les jeux neutres, quand on dit qu'un jeu est neutre en termes de langage, c'est-à-dire que le matériel ne contient que de l'iconographie.
Et que du coup, la lecture de la règle, en fait, suffit. La traduction de la règle, c'est ça que tu veux te diriger, je pense. Hein, voilà. Le fait de ne traduire que la règle, traduire
la
le matériel.
La règle et le dos de la boîte. Pour que ça soit quand même compréhensible.
Trajan, par exemple.
Voilà, donc c'est les...
Je crois que Trajan, il n'y a pas de texte. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a peut-être quelques éléments avec du texte. Mais effectivement, il y a une différence entre ne rien traduire, traduire juste règles et boîtes, ou traduire tout le matériel.
C'est ça.
Là, c'est vraiment beaucoup plus de travail, parce qu'il y a tous les fichiers à récupérer, les fichiers informatiques, quoi, et à reproduire. Enfin, à produire, quoi, au niveau de la production. Donc on a ça, on a ces deux modes de traduction. Oula, effectivement, est-ce qu'on est encore juste dans de la distribution? Je sais pas, je sais qu'Atalia l'a fait parfois. Par exemple, Ansa Teutonica, qui était assez mal traduit à la base, il a travaillé pour que ce soit retraduit, pour que ce soit plus compréhensible.
Et dans ce cas-là,
pour
c'était un matériel neutre, donc il n'y avait que la règle à traduire.
Et après, il y a ce que moi j'appelle en général la localisation. Alors, on peut penser à Hystérique Plus, là on sort du distributeur, on est dans l'édition. Hystérique Plus, qui est une gamme d'Hystérique qui a longtemps importé, amené des jeux en France, donc traduction du matériel si besoin, des règles également.
Quelques exemples qui sont parus chez Hystérique Plus, on a bien sûr Race for the Galaxy.
Par exemple, ouais.
T'es obligé de traduire tout le texte que t'as sur les cartes. Hein. Les cartes sont très verbeuses, là, pour le coup.
Ouais, c'est clair, ouais. Après, il y a tout ce qui est les jeux CGE à l'époque qui étaient chez Yellow, Dungeon Lords, Dungeon Pets, Galaxy Trucker, Space Alert et compagnie. Ou pareil, là, on est vraiment dans de la traduction, etc. Et après, il y a même certains jeux que le distributeur, l'éditeur, mais là, est-ce qu'on reste dans une démarche de distribution? Est-ce qu'on rentre pas dans de l'édition quelque part? C'est possible, hein, la question peut se poser. Où on est presque dans l'édition, parce qu'il y a par exemple Patch History qui avait vu sa couverture de boîte modifiée pour l'adapter au public français.
On va au-delà en fait de la barrière de la langue, mais là on s'attaque en fait à la facette culturelle d'un jeu. Où telle image, l'imaginaire que ça peut renvoyer, ben, peut-être que ce sont des images ou des références culturelles.
Je crois que sur le Patch History, il y avait un casque à pointe à la base sur la boîte et que Yellow a jugé pertinent de garder cette imagerie-là, tout en pervertissant en fait le produit d'origine quelque part. Hein, ça, c'est enfin en pervertissant ou en le rendant plus sain.
En le faisant rentrer dans des cases, on va dire.
Donc en le rendant entre guillemets politiquement correct pour notre culture.
Il faut l'édulcorer en fait, c'est ça le.
Et Barbarossa est un contre-exemple où justement c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui pour son imagerie de petite lycéenne.
Alors on rappelle juste militaire. Qu'est-ce que c'était Barbarossa.
C'était parce un deck building.
Donc c'est un jeu qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'opération Barbarossa, donc quand l'armée allemande envahit la Russie en juin 41.
Je te laisse seul maître de tes mots là.
C'est pas toi qui as fait une licence d'histoire.
C'était il y a bien longtemps. Mais et puis effectivement, mais avec une imagerie qui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, des petites écolières en petites jupes, qui étaient
en uniforme allemand.
En uniforme
et
allemand,
russe, ouais. Mais où on voit leur petite culotte. Donc c'est un peu limite quand même.
Qui colle très bien en fait à une imagerie. C'est presque un peu raciste de dire ça, mais voilà, l'imagerie japonaise avec tous les dating games, etc. Qui marche très bien là-bas, ou même les jeux télévisés qui marchent très bien là-bas, qui ont une autre vision en fait du politiquement correct que nous. Et chez nous, par contre, ça, effectivement, cette imagerie, indépendamment de la qualité du jeu qui apparemment n'était pas si mauvais,
tout le monde l'a encensé, mais je me demande si c'était vraiment pour sa partie mécanique.
Voilà, ce qui a fait parler de lui, c'est vraiment ça. Alors que du coup, pour le coup, peut-être que changer un peu les illustrations, etc., aurait permis de le vendre plus en France, pour le coup.
Après, peut-être que c'était un public uniquement pour les illustrations.
C'est ça, c'est possible.
Donc, si on reparle de la partie adaptation entre les différentes langues pour la localisation d'un jeu, avant, tu parlais du travail où, des fois, la localisation s'approche presque de l'édition. Et si on prend l'exemple de Fief, hein, qui est sorti chez Asynchron et qui a également été édité par... Academy Games aux États-Unis.
C'est un jeu des années 80 à la base. Hein.
Ouais. Bon, là, Academy Games, c'est un petit peu différent. C'est un éditeur, c'est pas vraiment un distributeur. Bon, le fonctionnement aux États-Unis, c'est encore différent comparé à chez nous. Et là, il y a carrément eu des adaptations de règles. Donc, t'as le même jeu, mais avec des règles différentes.
Ouais, t'as un exemple.
Par exemple, t'as une carte, la carte de l'assassin. Elle permet de tuer un personnage adverse. Dans la version française, tu la joues et t'as un taux de réussite de 100%, ça marche.
D'accord, le personnage est mort, basta.
Alors que dans la règle anglaise, tu jettes un dé et t'as un risque d'échec, en fait, de la carte assassin. Parce qu'ils avaient jugé que c'était.
Risqué d'assassiner quelqu'un.
Voilà, ou trop puissant.
D'accord, ouais, du coup, là, effectivement, on entre presque dans une démarche qui va plus loin que juste la distribution, et on se rapproche de la dernière catégorie qui est presque de l'édition, qui est difficile à définir entre les deux, quoi. Mais donc là, on est vraiment parti loin pour le coup de la distribution, on est effectivement presque rentré dans la localisation, ce que moi j'appelle la localisation en tout cas, et qui est presque de l'édition. Donc pour rappeler très simplement, distribution du jeu tel quel, règles comprises, sans traduction. Deuxième étape, on traduit juste la règle et la boîte. Troisième étape, on traduit aussi le matériel. Quatrième étape, on change carrément les choses et on rentre presque dans une démarche d'éditeur. En général, on est forcément en relation avec l'éditeur d'origine.
Parce que souvent, pour mutualiser les coûts, on peut imaginer que les différentes langues vont être imprimées en même temps. Ouais, bon, quoique souvent les distributeurs à l'étranger, ils signent les contrats une fois qu'un jeu a bien marché dans
leur pays. Dans le pays d'origine. Ça dépend. Ouais. Il y en a certains qui le signent avec des distributeurs tout de suite pour justement le diffuser, pour que ça marche bien, pour entraîner un effet d'entraînement comme ça.
Mais là aussi, il y a peut-être une recherche de la part des éditeurs à rendre le jeu le plus facilement localisable possible.
Quitte à perdre en clarté parfois au niveau de l'iconographie, ne pas mettre de texte parce que du coup ça va être plus simple, mais des fois du coup on perd en accessibilité justement. Ouais. On rend le jeu plus velu, hein, pour revenir sur notre premier terme, par le manque de texte. Donc voilà pour les différentes modalités de distribution. Tu as évoqué tout à l'heure un truc qui est intéressant, c'est le choix en fait du distributeur. Pourquoi est-ce qu'on irait chez Asmodée? Pourquoi est-ce qu'on irait chez Yellow? Pourquoi est-ce qu'on irait chez Atalia? Pourquoi on irait chez BlackRock ou autre?
Alors bon, là il y a aussi toute une partie purement technique, purement logistique et également marketing qui peut rentrer en ligne de compte. C'est quelle est la percée que peut faire un distributeur pour présenter un jeu qui a son catalogue et le diffuser le plus largement possible auprès des boutiques spécialisées. Ouais. C'est une facette de la réussite de la vente d'un jeu, mais bon, il y a le marketing, c'est aussi beaucoup plus large que ça.
Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Il y a le contrat qui va être signé, les différents devis, si on veut, qui vont être proposés par les différents distributeurs, que ce soit au niveau de ce que tu as dit tout à l'heure, l'achat ferme, le dépôt vente, que ce soit au niveau de la marge prise par le distributeur. Après, il y a toute la question humaine qui entre en compte, c'est-à-dire que si on ne s'entend pas avec des gens qui sont chez les distributeurs, peut-être que tout simplement, même si on a un meilleur contrat, même s'il a une meilleure visibilité, on va préférer travailler avec des gens avec qui on accroche plus. C'est des choses qui sont encore possibles aujourd'hui dans le jeu de société.
Après, là, je pense que la relation humaine, elle est beaucoup plus forte entre un auteur, illustrateur et son éditeur, alors qu'avec entre éditeur, distributeur, on est peut-être plus dans une relation commerciale.
Je suis pas sûr à 100%. Je pense que parfois, pour certains éditeurs, ça joue. Et il y a effectivement tout le réseau, toute l'implantation, le nom de l'éditeur, etc. Voilà, Asmodée, à la base, était un éditeur. Et aujourd'hui, finalement, son principal rôle, c'est d'être distributeur. Même si on connaît beaucoup le nom d'Asmodée, c'est principalement un distributeur, même s'il continue d'éditer des jeux et d'apporter des soutiens à d'autres éditeurs d'un point de vue financier ou autre. On peut prendre l'exemple de Matago, qui était chez Millennium, comme Istari avant de passer chez Asmodée, comme je crois Pearl Games aussi, que je crois qu'il était chez Millennium. Et Matago, donc Millennium, pour sa partie jeu de société au moins, a arrêté de distribuer. Et Matago n'est pas allé chez Asmodée, ils sont allés chez BlackRock. Alors qu'on pourrait se dire, c'est un éditeur quand même reconnu par les joueurs, Matago. On a un Takenoko avec Bombix, et Bombix qui était déjà chez Asmodée pour le coup. Également Kemet, également Ignis là qui va arriver, voilà, pour des plus petits jeux, également pour Royal et autres. Et donc voilà, on peut se poser la question.
Catégorie gros joueurs quand même, hein, un certain nombre de titres.
Ouais, dans l'ensemble, ouais, c'est quand même un public joueur déjà. Et du coup, voilà, on peut se poser la question. Toi, admettons, dans un monde alternatif, tu es éditeur. Tu as le choix entre BlackRock et Asmodée. Qu'est-ce qui va pousser ton choix à aller chez BlackRock ou chez Asmodée justement?
Bah, après, bien sûr, il y aura forcément l'aspect économique qui va rentrer en ligne de compte. Hein. Quelle place aura le jeu au catalogue?
C'est là que je voulais t'emmener. Chez ouais. Asmodée, Libidude sort en même temps Mysterium. Toi, tu sors ton premier jeu en tant que nouvel éditeur. Est-ce que tu penses qu'à côté de Mysterium, ton premier petit jeu, bon, alors peut-être qu'ils vont vouloir pousser un nouvel éditeur, mais est-ce que tu penses qu'il va être mis au même niveau ou bien t'as peut-être peur d'être noyé dans la masse? Alors que chez BlackRock, ouais, par exemple, qui a un distributeur qui, certes, a peut-être moins de réseau de boutique, qui peut-être a moins de moyens marketing, mais est-ce que ce nouveau petit éditeur, il va pas être mis plus en valeur finalement que chez Asmodée?
Est-ce que c'est peut-être pas pour ça au final que Asmodée a créé le nouveau distributeur un peu spécialisé
Novalis,
Core,
ouais.
Novalis?
Pour remettre en avant certaines productions, tu veux dire?
Voilà, et pas vendre que du Jungle Speed, entre guillemets.
Ouais, mais je sais pas, faudra voir l'évolution de ça, parce que Marabunta à l'époque voulait se recentrer sur du gros jeu a pas fonctionné finalement.
Ils avaient un peu le même fonctionnement que Atalia au final, puisqu'ils localisaient des jeux étrangers. Hein, donc ils avaient quoi? Ils avaient Mage Wars, ils avaient Manhattan Project, Hyperborea.
Libertalia, je crois, en premier. Leur premier jeu, c'était pas Libertalia, s'il me semble que c'était ça. Qui est pour le coup un peu plus léger que par exemple Hyperborea. Mais voilà, donc oui, c'était un petit exemple. Par exemple, pour voilà, pourquoi est-ce qu'on irait chez un plus petit distributeur, peut-être moins avantageux, peut-être moins renommé, tout simplement
peut-être
pour être
qu'il y a un catalogue plus spécialisé.
Ouais, des fois, ouais, tout... ouais, voilà, pour Voilà, si je m'adresse à un public de niche, mieux vaut peut-être que j'aille chez ce distributeur qui vise ce public de niche, mais tout simplement peut-être qu'il mettra plus en valeur mon jeu qu'un grand distributeur qui a tellement de jeux à mettre en valeur qu'il sait plus quoi mettre en valeur et qui va mettre en valeur que ceux qui vont peut-être potentiellement le plus se vendre, quoi.
Si on reparle d'un autre rôle du distributeur, c'est outre le stockage des boîtes de jeux, c'est aussi d'assurer le SAV. Là, il y a pas mal de...
Ouais, c'est vrai, ouais. Asmodée, par exemple.
Voilà, ouais, ils ont les pièces détachées des différents jeux qu'ils ont en distribution, donc, et ils ont un SAV qui est assez efficace, d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà eu à les contacter, parce que mes enfants, j'ai eu le malheur de leur laisser jouer avec une boîte de jeux et ils m'ont égaré deux, trois pièces et ils ont été sympas, au SAV d'Asmodée. Ils m'ont renvoyé les pièces, sans frais, en plus.
Et du coup, ouais, si on veut, on parle tout le temps du Kickstarter hein, quand on parle de jeux de société aujourd'hui. Mais pour le coup, le Kickstarter a une importance dans le rôle du distributeur. Je sais pas ce que tu peux nous en dire.
Bah, son importance, c'est qu'il le squeeze, on va dire.
Potentiellement, ouais. Parce que tout simplement, le porteur du projet, après, il peut dire, on vous paye tant en frais de port, qui sera peut-être beaucoup plus élevé que s'il avait choisi un distributeur pour le coup.
T'as payé combien en frais de port pour Conan?
Alors, je ne saurais plus maintenant parce que tu sais, j'ai payé
il y a longtemps.
J'ai payé il y a longtemps, ouais. Donc, avec le temps, l'argent s'en va. Non, je crois que c'était pas loin, enfin, que c'était plus de 50 euros, mine de rien.
En frais de port?
Bah, pour 12 kilos. 10 kilos, je crois, de matériel, donc, ouais. Donc, okay. Effectivement, voilà, il y a des frais de port qui sont importants et que le porteur du projet peut gérer sans passer par un distributeur et qui va directement amener, en fait, si c'est un projet de niche qui n'est pas destiné aux boutiques, en tout cas, aux consommateurs, aux joueurs, via la poste, via Chronopost, via je ne sais quel dispatcher. Donc effectivement, là, le distributeur est, comme tu l'as dit, squeezé, il disparaît, et du coup, à terme, dans un monde où seul Kickstarter est maître du monde, les distributeurs ferment ou sont obligés de s'adapter.
Voilà, dans 10 ans, on kickstartera directement les jeux sur Amazon.
C'est ça, on kickstartera directement le premier John Godspeed, un jeu qui a besoin de beaucoup de moyens pour être édité.
Voilà.
Du coup, ouais, donc mort du distributeur, Kickstarter, la mort du distributeur, la question est posée, mais on va y répondre en tout cas à notre mesure. C'est que des fois, le distributeur entre quand même dans la relation entre le porteur du projet et le joueur.
C'est vrai que le premier acteur auquel on pense qui peut être squeezé, qui est squeezé dans un Kickstarter, c'est la boutique spécialisée. Mais souvent, les projets Kickstarter, ils mettent à disposition des pledges spécifiques.
Des pledges boutiques, ou bien le jeu après arrive en boutique sous une forme amoindrie ou autre. Mais effectivement, c'est la première ligne qui saute à laquelle on pense. Ouais.
Mais là, du coup, la boutique spécialisée va être épargnée dans le projet, mais pas le cas du distributeur.
Parce que,
est-ce qu'il va y avoir des projets avec des pledges distributeurs?
Ben, justement, ouais, je crois. Enfin, peut-être pas avec des pledges distributeurs, mais les distributeurs. Encore une fois, je prends l'exemple d'Atalia parce qu'on en a pas mal discuté. Il y a certains distributeurs, et c'est pas Atalia n'est certainement pas le seul, qui sont en collaboration avant avec le Kickstarter pour proposer en fait leurs compétences de distribution, leur réseau, leur logistique, etc., leur stock à des porteurs de projets et dire ben ok, moi je prends une marge, etc. Alors que la boutique soit squeezée ou non après, parce que justement le distributeur peut après envoyer en boutique également. Mais c'est des choses en général qui se font en amont. Alors j'ai eu deux échos. Natalia disait que bah moi je le fais en amont parce que finalement ça me coûte rien si le projet est pas financé. Voilà, j'ai rien à distribuer et puis ça m'a rien coûté de m'engager auprès du porteur du projet. Et je crois que c'était Vécommando, Thibaut de la Toine à l'époque pour Triton Noir qui disait oui, j'ai trouvé des distributeurs qu'après le projet parce que personne voulait me soutenir sans savoir si le projet allait marcher. Alors moi comme ça, alors les deux avaient leurs arguments que j'ai plus bien en tête, mais c'est vrai que le discours de Cesare me paraissait plus logique. Quelque part. C'est-à-dire qu'il prend aucun risque à dire « Ok, je te le distribue si ça marche, et puis si ça marche pas, tant pis quoi. » Donc voilà, le distributeur effectivement peut être squeezé si le porteur du projet va directement vers les joueurs, ou bien il peut essayer de trouver sa place aussi dans le marché du Kickstarter en proposant finalement des compétences que n'a pas forcément, et des tarifs par exemple pour les frais de port, etc., que n'a pas le...
Donc au final, on va retrouver de nouveau tous les acteurs.
C'est ça, mais sur une autre échelle. Sachant que du coup, bah, évidemment, le porteur du projet a tout intérêt à essayer de se passer du plus possible d'intermédiaires pour engranger le plus de marge, en fait. Puisqu'on a parlé des 30%, 30%, 30%, 10%. Si on arrive à se passer de 2 fois 30%, ça fait 90%, 10%. Sachant que les auteurs ne réclament pas forcément plus en droit d'auteur sur Kickstarter que dans les projets, entre guillemets, classiques. Ça ferait 90% pour le porteur du projet, avec les frais. Enfin, Kickstarter, du coup, prend aussi les frais. Mais voilà, donc
ouais,
ça.
Je sais plus combien c'est. C'est
Il me semble. Enfin, ouais, on va encore faire des suppositions de 10-15%, ouais. Mais voilà. Donc, oui, Mordi distributeur, pas forcément. Le distributeur peut s'intégrer dans Kickstarter. Et parfois, la boutique dont tu parlais peut même prendre le rôle de distribution. Je crois que c'est Philibert qui, justement, distribue, par exemple, la Conan ou.
Voilà, ils assurent la partie logistique.
Voilà,
fait,
ils assurent
des
partie
projets,
logistique. Ouais.
Parce qu'ils ont quand même un gros entrepôt, donc ils peuvent
un
faire
gros
du
entrepôt
stockage.
Et puis l'habitude de dispatcher avec.
Avec le nombre de commandes voilà, qu'ils gèrent.
Philibert est connu aussi, effectivement, pour la qualité de la rapidité, mais aussi la qualité de l'emballage, etc. Donc voilà, sur le Kickstarter, donc effectivement, possiblement la mort du distributeur, mais pas forcément. Comme ça, on se mouille beaucoup. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait aborder sur le distributeur. Si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas. On va peut-être juste citer quelques distributeurs. Alors toi, si je te dis distributeur, lesquels te viennent Alors des Français surtout, hein, désolé pour les étrangers qui nous écouteraient. Mais...
Bon, alors on a déjà cité Asmodée, Gigamic.
Donc Gigamic qui distribue uniquement des jeux étrangers, enfin ou presque. Il y a peut-être des contre-exemples, mais ils éditent des jeux français, mais voilà. Ils n'ont pas d'éditeur français qui est distribué par eux, je crois. Donc effectivement, Asmodée le plus connu. Hein.
On a cité donc Atalia, BlackRock, Paille Édition également,
qui est moins connu
qui
aussi.
Est un distributeur. Il distribue notamment les jeux au plat.
Ouais, alors et là pour le coup, je pense qu'il y a aussi, tu vois, le côté humain qui joue, je pense, une certaine vision de l'éco-responsabilité, etc. Je pense qu'ils partagent et que du coup, tant pis si on gagne moins de fric, mais au moins on le fait avec notre conscience, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais, Yellow qu'on a cité également. On a parlé de Millennium qui effectivement a longtemps distribué en fait les jeux plus core gamers, mais qui là je crois est mort au niveau du jeu de plateau en tout cas. Peut-être qu'il distribue encore des jeux de rôle, ce genre de choses. Et moi je crois que t'as fait le tour. Je crois que moi j'en ai pas de tête. Si vous rappelez d'autres, vous les mettez en commentaire.
Alors, on va juste parler des prix en fait de certains jeux entre les VO et les VF parce qu'on a en fait on a les deux cas de figure. Souvent lorsque un jeu VO évidemment quand il vient en import il est plus cher hein, puisque voilà il y a un distributeur supplémentaire qui vient s'y greffer.
Ouais d'accord, donc si le jeu en VO est distribué en France tu veux dire ouais.
Voilà mais en version VO donc non ouais. Localisé.
Ok.
Donc
tu vas avoir un intermédiaire
un peu plus
supplémentaire.
Élevé, ouais. Et alors que si le jeu va être localisé, donc bon après avec un distributeur qui va sans doute négocier les tarifs, etc. Enfin bon là on rentre dans la partie économique. On va avoir une VF qui sera moins chère. Si je prends l'exemple de Roll for the Galaxy, qui est distribué en VF
par
Gigamic, je crois qu'il est au tarif de 52€ et des brouettes.
Ouais, entre 50 et 60 en tout cas.
Et la VO était plus chère.
Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, parce qu'ils ont fait aussi peut-être plus de stock, etc. Et effectivement, ça peut expliquer les prix. Alors, des fois, c'est dans ce sens et des fois, c'est dans l'autre. On ne sait pas. Voilà, on peut se poser la question est-ce que le fait d'avoir un monopole en tant que distributeur, finalement, de représenter autant d'éditeurs, ça ne permet pas d'imposer, entre guillemets, ses contrats et ses prix, et du coup, de les monter, et du coup, d'entraîner des prix d'achat plus chers parce que le distributeur demande plus cher. Donc, forcément, à un moment, ça se répercute sur le prix final, quoi. Ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Effectivement, là, l'exemple que tu donnes est un bon exemple de. On trouve un distributeur et ça permet d'avoir le jeu moins cher pour le joueur, quoi.
Et on a aussi des cas inverses où t'as la version française. Donc ça, c'est arrivé avec certains jeux de Philosophia, par exemple.
Par exemple, là, il y a en l'occurrence là, on parle de A Feast for Odin, qui est à 90€ pour en français. Qui était trouvé beaucoup moins cher sur le salon. Alors, il y a plein de raisons.
Il était vendu au même prix les premiers jours et je crois que c'était à partir du vendredi. Bon, ça, on pourra l'écouter dans l'épisode de SN qui a été enregistré par Merlin, Cyrus et Dédé, où le jeu, en fait, avait baissé. Il était passé à 60€ parce que la version allemande était vendue à 60€.
D'accord, il était vendu en français à 60€. Ou en allemand ?
Non, en allemand. En allemand,
en allemand d'accord. Ouais, alors là, il y a plein de questions qui se posent sur le prix du jeu, pourquoi la différence, etc. Mais je pense pas que ce soit juste le fait que ce soit une version française qui... Enfin, je sais que c'est un truc qui fait beaucoup parler le net en ce moment. Facebook s'est levé.
Non, mais... J'avais en tête un ancien exemple lorsque j'avais acheté le jeu Megawatts, qui était édité chez Philo. Funkenschlag, Power Grid. Mais en fait, la VF était plus chère. Comparé à la VO.
Ouais, d'accord.
Mais ça, il avait expliqué, c'est la VF, elle a été produite, c'était une production spécifique à moins d'exemplaires, donc forcément les coûts de production sont plus élevés. Et ça là, se ressent sur le
pour Odin, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Je sais que Philosophia, depuis trop longtemps, ils sous-produisent même des jeux qui sont sûrs de vendre plus. Par exemple, Terra Mystica, il était en rupture alors qu'ils étaient sûrs d'en vendre un.
Dead of Winter, c'était pareil.
Voilà, je sais pas.
Même le retirage n'était pas immense. Hein.
Peut-être que ça a changé maintenant qu'ils ont été rachetés. Hein. C'est possible. Mais voilà, donc il y a plein de possibilités sur la hausse d'un prix. Le choix d'un distributeur français qui est un intermédiaire de plus en est un. C'est certainement pas la seule raison. Je pense qu'il y aurait tout un épisode à faire sur le prix des jeux, la différence en France entre la France et le pays étranger. Là, c'est vrai qu'on est concentré sur le distributeur. Effectivement, comme tu l'as dit, ça peut faire baisser le prix, comme avec Roll for the Galaxy, par rapport au jeu original, ça peut aussi augmenter. Mais à ce moment-là, c'est certainement pas la seule raison, quoi.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du paysage des distributeurs.
Alors, on espère que le rôle est plus clair pour vous. En gros, c'est la personne entre l'éditeur et la boutique, si on veut vraiment rappeler le cœur du rôle du distributeur.
Et qu'on peut facilement rapprocher au fonctionnement d'un distributeur pour n'importe quel type de produit au final. Là, on n'est vraiment pas du tout spécifique pour du jeu de société.
Donc c'est un rôle qui est un peu caché, mais ne l'oubliez pas parce qu'il y a des gens qui bossent derrière. C'est pas la partie la plus drôle, mais que sans les distributeurs, les jeux n'arriveraient pas en boutique. Et donc finalement, ils y arriveraient différemment. Et du coup, ils n'arriveraient pas chez vous non plus.
Voilà.
Donc pour le prochain thermo fromage, nous verrons ce que l'avenir
donnera. Voilà, on verra ce que ton site nous donnera comme lettre.
C'est ça. Peut-être que ce sera le D à nouveau.
Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires aussi bien sur le site ou sur Twitter. Hein, donc on sera ravis d'y répondre. Ou même, est-ce que les auditeurs ils peuvent orienter le choix de la lettre?
Ah, on pourrait faire un truc comme ça. On pourrait faire un vote sur les 26 lettres.
Voilà.
Ouais, pourquoi pas. On va voir. On va trouver, y changer, voilà. Ça peut être rigolo.
Ok, bon, on vous dit à très bientôt pour le prochain thermofromage.
Et en attendant,
d'ici là,
jouez bien.